Yannick Granec, bonsoir.
Bonsoir.
Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à Bordeaux, bienvenue à la librairie Mola pour cette rencontre donc avec vous, Yannick Granec, sur votre nouveau et deuxième roman, Le bal mécanique, aux éditions Anne Carrière. Alors, ce roman, il va faire certainement, il a déjà commencé d'ailleurs à faire certainement autant de bruit et de succès que le premier roman, hein, La déesse des petites victoires, que vous avez fini en 2012, si je ne me trompe.
Oui, il y a 4 ans, oui.
Voilà. Et donc, il vous faut des années de travail, visiblement, et on le comprend quand on lit vos romans. Le premier, donc, a été tout de suite remarqué aussi, puisqu'il a été nominé, je crois, pour le prix FNAC, et puis surtout couronné par le prix des libraires 2013. Mmh. Donc, tout de suite, une reconnaissance de connaisseurs, on va dire, hein, puisque ce sont les libraires qui conseillent les livres, mais qui les lisent aussi. Hein, les vrais libraires lisent énormément ce qu'ils vendent. Et donc, celui-ci, certainement, est destiné au même succès, au même avenir. En tout cas, c'est ma conviction après lecture.
Merci.
Cela dit, mesdames et messieurs, si vous cherchez comment être heureux en 10 chapitres, vous vous êtes trompé de rayon. Parce que ce n'est pas un livre... Enfin, je caricature.
Oui,
dites-moi,
oui.
Corrigez-moi.
Non, ce n'est pas un livre qui apprend à être heureux, évidemment, parce que je ne pense pas que ça existe, un livre qui puisse apprendre à être heureux. Mais c'est comme c'est un livre sur la famille et le poids de l'ascendance et aussi le poids de la descendance. C'est une réflexion sur comment vivre avec ça.
Oui.
Comment en vivre avec les valises des autres, en fait.
Voilà. Comment prendre conscience aussi, peut-être comment découvrir.
Hein, et puis comment laisser aller un peu aussi.
Oui, et comment se réjouir finalement, comment rendre grâce peut-être à l'héritage que l'on a reçu sans le savoir, ou en ne sachant pas tout en tout cas, et comment transmettre aussi à son tour.
Voilà, exactement. Oui. Par le biais de l'art, par exemple.
Par exemple, et surtout. En tout cas, avec ce deuxième roman, Le bal mécanique, on est vraiment dans l'univers artistique, comme on était dans l'univers scientifique dans le premier roman, La déesse des petites victoires, puisqu'on était sur l'Olympe des mathématiciens et des physiciens, d'ailleurs, de l'entre-deux-guerres. Et ici, bien, nous sommes transportés dans l'univers du Bauhaus, donc là aussi, dans l'entre-deux-guerres. Est-ce que c'est une fascination, cette époque de l'entre-deux-guerres ?
Oui, c'est une fascination, une forme de nostalgie aussi. C'est une période extrêmement riche entre la fin de la Première Guerre mondiale et puis le début de la montée du nazisme. Il y a une activité artistique et scientifique, et littéraire aussi également, mais intense. Et il y a comme une sorte de danse agitée entre deux carnages, en fait, et donc porteur d'une énorme créativité.
Oui, on dit que c'est dans les périodes où la mort est la plus proche, qu'on vit avec le plus d'intensité.
Qu'on vit l'instant avec le plus d'intensité.
L'instant, oui. Y compris les instincts les plus vitaux, comme se reproduire, faire l'amour. On sait sur les périodes de peste, par exemple, depuis le Moyen-Âge, qu'il y a cette espèce de surexcitation,
pulsion
de vie, oui. qui surgit d'autant plus intense que la mort, elle aussi, est plus proche.
Exactement.
En tout cas, on entre dans ce tourbillon, dans ce bal mécanique. Alors, mécanique, il y a évidemment beaucoup d'interprétations auxquelles le lecteur peut céder. À partir du titre, hein, le titre fait beaucoup rêver déjà, avant qu'on achète le livre, bien sûr, mais aussi pendant la lecture et après. Après aussi, on se prend à rêver à ce titre mis en face du texte. Alors, j'ai trouvé un film très intéressant qui date de 1924, qui s'appelle « Ballet mécanique » de Fernand Léger.
Mmh, oui.
Vous l'avez sûrement
oui.
vu vous aussi. Et donc, c'est tout à fait intéressant, ce tourbillon, là aussi, qui mélange du vivant et du mécanique, du géométrique et du vivant, et qui retrace une certaine époque du cinéma, précisément dans l'entre-deux-guerres. Et c'est peut-être aussi le sentiment qu'on a en vous lisant, c'est-à-dire des morceaux qui tourbillonnent et puis qui se mettent en place et qui se décomposent, qui se recomposent autrement. Et tout ça avec beaucoup d'humour. Et dans le film de Fernand Léger, c'est Charlot qui présente le ballet mécanique. On a aussi cette dose d'humour qui est toujours présente.
Mais c'est la fascination de l'époque très particulière pour à la fois pour mélanger en fait effectivement une plastique très abstraite et puis la fascination pour la machine. Ne serait-ce que le film de Chaplin, les temps modernes, ça le représente bien aussi. Chez Léger, il y a ça aussi. Et dans tous les peintres abstraits de l'entre-deux-guerres, c'est parce que c'est le début de l'industrialisation à outrance et il y a un énorme espoir qui est porté. Et une petite peur, mais il y a quand même beaucoup d'espoir. Bon, après, la suite va montrer que oui. La peur était fondée. Mais bon.
Oui, il y a une énorme, un énorme enthousiasme, en fait, pour tout ce qui est révolution industrielle, progrès industriel.
Censé donner la fin de la servitude.
Voilà.
Mais annonce d'une autre, d'une nouvelle servitude. Mais,
voilà. Alors, il faut dire aussi un mot de ce que vous... Et Annie Granek, puisque votre formation en graphisme, en design, vous étiez étudiante en design, et je pense que ça explique aussi, enfin ça explique, rien n'explique rien, mais disons que ce n'est pas pour rien dans votre goût pour le Bauhaus, qui pour vous et pour, je pense, tous les étudiants de design contemporain, est la référence absolue qui préfigure finalement tout ce qui a été ensuite décliné, mais qui a été inventé pendant cette période-là.
Oui, la notion même du design a été inventée à peu près au Bauhaus entre 19 et 30.
Oui.
Et donc tous les étudiants en design et d'architecture contemporain, dont j'ai fait partie, hein, à peu près un siècle aussi, sont biberonnés à ça. C'est les pères fondateurs, en fait. C'est les pères fondateurs du design.
Oui.
C'est à ce moment-là qu'on a intégré la valeur esthétique à la valeur d'usage et au process industriel, tout ça en même temps. Ce qui était pas forcément une révolution, mais une évolution par rapport au début du siècle où c'était l'artisanat était proche de l'art, mais pas l'industrie de l'art. Et donc ce rapprochement-là a été fait au Bauhaus en particulier.
Oui, il y a une sorte de convergence de l'économie de gestes, de l'économie d'argent et aussi de la démocratisation, peut-être.
Un idéal de démocratisation, parce que dans les faits, c'est quand même resté une culture plutôt élitiste.
Oui.
Mais les fondements ont été le germe de ce que nous connaissons, nous, en tant que pratique du design. Parce qu'aujourd'hui, tout le monde a intégré qu'un objet, ça se dessine à la fois par le fond et par la forme, en même temps. C'est pas quelque chose de beau et après on va le rendre utile ou quelque chose d'utile on va le laisser aller. C'est les deux aspects sont fondamentaux et sont surtout en amont intégrés au process industriel. C'est un peu peut-être un peu bon, là c'est pas très littéraire mais bon c'est
oui mais c'est quand même très intéressant parce que on retrouve dans l'œuvre, dans votre œuvre, on retrouve des considérations sur cette époque dans ce sens-là. Enfin, comment entre en conflit l'art, la subjectivité individuelle de l'art et une époque qui est plutôt celle de la masse. Mmh. Et alors ça commence très fort quand même avec votre première partie sur la télé-réalité, qui est vraiment peut-être... Un résumé, un mauvais, je ne sais pas comment dire, mais pour notre époque, c'est peut-être pas ce qu'on laissera de mieux, j'espère en tout cas. Mais
c'est ce qu'on laissera.
C'est ce qu'on laissera.
Donc, voilà. On ne peut pas être un écrivain dans son époque et ne pas parler de ses paradigmes, mais en l'occurrence, la télé-réalité fait partie de notre vie.
Elle fait partie de notre vie. Elle est même assez invasive, dans tous les sens du terme. Et donc, l'un de vos personnages, enfin, le premier avec qui on fait connaissance en lisant votre roman, Josh, il est complètement, évidemment, impliqué, puisqu'il est à la tête de la production d'une émission de télé-réalité qui s'appelle « Oh my Josh ». C'est pas sans rappeler, évidemment, « Oh my God ». Donc, voilà un démiurge contemporain qui refait les familles, les destins, les décors aussi... le décor quotidien, la maison. Mais bien sûr, quand on vous lit, on voit bien à quoi vous faites allusion. Quoi. On a des émissions comme ça aujourd'hui. Et on y passe beaucoup de temps à regarder ces émissions, statistiquement.
Fasciné par le vide.
Le vide, voilà.
C'est la fascination du vide.
Oui, voilà. Et donc, dans cette émission, il y a cette ambition de régler les conflits familiaux. Alors ça aussi, c'est une dimension intéressante. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, le développement personnel, bon, on voit quand même la satire. Hein, sous votre plume, on voit une certaine satire de tout ce mouvement de développement personnel, de recherche du bonheur en petites recettes rapides, efficaces, des thérapies brèves, etc. etc. Et alors, le contraste est intéressant parce que ce Josh, il n'est pas justement maître de sa propre liberté ou de sa propre famille. Il a des problèmes familiaux comme tout un chacun. Et alors, évidemment, quand on sait qu'il dirige une émission où il tire les ficelles et où il fait, par l'intermédiaire de sa femme, d'ailleurs, Vicky, ou pas, hein, il manipule finalement les gens.
Avec de très bons sentiments. Parce que,
voilà, avec les meilleures intentions.
Avec les meilleures intentions. À son sens, lui, il fait œuvre utile, œuvre d'intérêt public. Oui. Mais c'est le principe de l'arroseur arrosé, évidemment.
Oui.
Mais c'est,
du cordonnier mal chaussé.
Cordonnier mal chaussé. Enfin, bon. Oui. Et, parce qu'en fait, effectivement, donc, cette émission de télé-réalité, il faut le dire, est un concept de thérapie familiale sauvage. Donc de psychogénéalogie, mais tout le livre en fait est une histoire de psychogénéalogie puisque ça parle de quatre générations et des névroses passées de génération en génération. Et là où il y a un mécanisme qui grippe quelque part dans les générations antérieures, fait en sorte que entraîne que notre héros contemporain Josh, lui, bien que tout lui réussisse et qu'il va être père et que son émission marche très bien, qu'il est amoureux, quelque part, il est en bascule. Mais il est incapable de régler son propre cas. Et c'est bien normal. On est toujours dans la difficulté à voir sa propre histoire. Et c'est même pour un écrivain, c'est beaucoup plus facile d'écrire sur les histoires des autres et de régler des cas fictifs que de régler ses propres histoires familiales, mais ça défoule.
Le grain de sable dans la mécanique fait que ça réoriente finalement des choses qui paraissaient bien huilées, qui tournaient rond. Enfin, c'est tout ce qu'on a dans les premiers chapitres, hein, ça tourne du feu de Dieu. Mais au fond, il manque quelque chose à Karl, à Josh. et donc, c'est par ses relations avec son père Karl que quelque part, il va y avoir... une recherche, et au bout de la recherche, il va y avoir une lumière, en tout cas pour le lecteur.
Alors, il y a... En fait, j'ai joué avec mes personnages. Je suis aussi, c'est le principe du démiurge, et du coup, c'est le seul cas dans la vie où on peut se permettre de jouer comme ça avec des gens et de les faire mourir éventuellement. C'est comme ça, c'est cruel, mais c'est pour le propre de la fiction. Et en fait, toute la première partie est vue du point de vue prioritairement de Josh, qui va faire une enquête généalogique pour remonter quelques secrets de famille, pour savoir d'où viennent ses problèmes avec son père et pourquoi son père lui-même était si dépressif et si en dehors de sa vie. Et puis, il va progresser un petit peu, mais pas tant que ça. Il va arriver sur une sorte d'impasse. L'impasse que nous connaissons tous, je pense, parce que même si on s'intéresse, si on fait de l'analyse pendant 20 ans ou qu'on recherche son histoire familiale, il y a toujours des secrets enfouis, il y a toujours des choses qu'on ne pourra jamais expliquer, parce qu'on ne sera jamais à la place, évidemment, de nos ancêtres. Il y a un siècle, il y a deux siècles, enfin, on ne saura jamais. Donc Josh, chez nous, enfin, c'est notre cas à nous. C'est-à-dire qu'on vit avec des valises pleines de choses, bonnes ou pas bonnes. Il peut y avoir des secrets magnifiques et puis des drames. Et parfois, on entrevoit ce qu'il y a dans ces valises, et parfois, on doit vivre avec des valises complètement fermées et qui sont très lourdes à porter. Et donc, je laisse mon pauvre personnage dans cet état-là, mais quand même avec un petit peu d'espoir. Je pense que l'idée, c'est quand même... Il est à son tour père, donc il dit, je vais faire avec, mais je vais faire pour le mieux, parce que c'est la seule chose qu'on puisse se dire, sincèrement, j'ai l'impression. Et puis, deuxième livre, on remonte au début du 20e siècle, et je déroule absolument toute l'histoire depuis l'arrière-grand-père, et je donne toutes les clés au lecteur, en fait. Voilà. Donc le lecteur devient Dieu lui-même, puisque lui, il a les clés, alors que le pauvre pantin sur Terre, lui, ne les aura jamais. Quoi.
Voilà, on en sait beaucoup plus que ce Josh qui se prenait pour Dieu. Quoi.
Ouais.
Et ça, c'est très jouissif pour un lecteur, bien sûr. Mais en même temps, ça se mérite parce que le livre est construit donc en deux parties, et un petit peu comme un puzzle, parce qu'il y a énormément de personnages. En tout cas, chaque chapitre est raconté... par le regard et par moments par la voix et par la personne mais pas tout le temps. Il y a aussi ce jeu sur les personnes qui est intéressant, qui est assez neuf. Souvent, un chapitre commence à la troisième personne. On voit le monde du point de vue et à l'époque du personnage qui est noté dès la tête de chapitre, mais à la troisième personne. Puis tout d'un coup, ça bascule de manière quelquefois inattendue. Enfin, à la fois inattendue et naturelle,
et fluide, normalement, fluide.
Fluide, tout à fait, oui. Mais on est tout d'un coup dans le jeu. On s'est pas aperçu qu'on était dans le jeu. Et tout d'un coup, on dit, oui, mais au début, c'était il ou elle. Maintenant, c'est le jeu. Et effectivement, il y a une grande fluidité. Mais ça fait partie aussi de, comment dire, du voyage. On est dans un voyage. Et donc, vous l'aurez compris, ce roman, c'est une machine à remonter le temps parce qu'on retrace tout le XXe siècle, quoi, depuis le début du XXe siècle jusqu'à nos jours. Et pas toujours dans l'ordre, mais les pièces du puzzle se mettent en place à la grande satisfaction du lecteur. Surtout vers la fin, parce que les choses s'accélèrent vers la fin et deviennent de plus en plus, comment dire, correspondent de plus en plus harmonieusement. Et là, on voit le motif dans le tapis, quoi.
Bah, c'est comme un puzzle. Quand vous démarrez un puzzle de 10 000 pièces, vous avez des petits bouts à droite, à gauche. On va très lentement. Et puis, plus on en trouve, plus on en trouve. Et donc, ça s'accélère. Donc, c'est le principe. En fait, c'est une belle mécanique. C'est pas pour rien. C'est une mécanique qui a été désossée, mise à plat. Puis d'un coup, on remonte au fur et à mesure à la mécanique. Et puis d'un coup, normalement, tout s'enclenche et tout a un sens.
Oui, voilà, et on peut confirmer que ça marche. Hein,
et concernant l'idée du point de vue de passer du il au jeu, du subjectif à l'objectif, tout simplement aussi, c'est un héritage artistique. C'est à partir du moment où Picasso fait les Demoiselles d'Avignon, quand on commence à briser les perspectives et quand on multiplie le type de vue sur un seul et même tableau pour dire la même chose, pourquoi ne pas le faire en littérature, tout simplement?
Oui, c'est pas... Et la multiplication des points de vue sur la même époque, on peut penser au roman américain, puisque que ce soit chez Faulkner ou dans d'autres romans américains, on a aussi cette réécriture des événements de plusieurs points de vue différents. Alors là, chez vous, ce n'est pas tout à fait ça, parce qu'on avance en même temps. On n'est jamais tout à fait sur le même événement réécrit à la manière de ce que disait Maisy. Ce n'est pas ça exactement. Mais on a cette multiplication de facettes qui, effectivement, est plus cubiste que peut-être littéraire, enfin, au départ, disons. Parce qu'il y a quelque chose dont on n'a pas encore parlé, mais qui vraiment fait le centre de ce roman. C'est l'univers des peintres du Bauhaus et de cet entre-deux-guerres, et notamment Paul Klee, qui joue un rôle clé sans jeu de mots, dans ce roman, puisqu'il est le parrain de Magda, qui elle-même est la fille de Karl.
Non, et de Théo.
De Théo, oui, pardon. Je saute les générations parce qu'il y a aussi... Il y a aussi cet effet de
rétroaction.
De rétroaction, oui. Plusieurs fois. Et du coup, certes, il y a Théo, Karl et Josh, en tout cas au départ, dans la filiation simple, disons. Après, c'est moins simple, mais...
C'est jamais simple, la filiation.
C'est jamais simple, non, voilà. Et donc, là, je ne parle que des hommes, mais la filiation par les femmes, elle est encore moins simple et plus riche. Et on avait compris dans La Déesse des Petites Victoires que la femme... était dans votre œuvre centrale et que vous répariez finalement quelque part une injustice faite aux femmes, puisque derrière le mathématicien du génie, enfin derrière ou plutôt en dessous, le portant, il y a sa femme, Adèle. Et ici aussi, on voit que Magda a un rôle clé, enfin vraiment énorme, central. Et c'est un très très beau portrait de femme libre et complexe aussi, à laquelle on peut s'identifier, notamment quand on est une lectrice, mais pas seulement, je pense. Le lecteur peut s'identifier énormément à Magda, à ce qu'elle traverse, à ses doutes, à ses désirs, à ses rêves, à son affirmation de soi. C'est peut-être la première génération de femmes qui a pu autant s'affirmer.
Oui, mais elle est quand même très pris dans un système patriarcal. Donc même si elle a beaucoup de volonté et des envies de liberté, elle doit affronter un système qui encore à l'époque, et même dans un milieu extrêmement libéral comme pouvait être le Bauhaus ou le milieu artistique, reste encore relativement fermée aux femmes. Certaines s'en sont bien sorties, en particulier au Bauhaus, parce qu'elles avaient des tempéraments hors du commun. Mais pour la plupart, par exemple au Bauhaus, où on faisait une année propédotique, c'est-à-dire filles et garçons étaient dans la même classe pendant un an à étudier les matériaux, les couleurs, la peinture. Et puis après, on choisissait un atelier, on allait à l'atelier métal, à l'atelier bois, en architecture. Et les historiens que j'ai pu lire, ça montre que la plupart du temps, les femmes, on les envoyait en tissage. Voilà. Et qu'il y en a très peu qui ont réussi à échapper à ce système, même si elles étaient bourrées de talent. Hein, et que souvent, on mettait ça sur le compte de leurs difficultés musculaires. Voilà. Et il y en a une, un contre-exemple, c'est Marianne Brandt, qui est une designer très connue allemande, qui a fait énormément de modèles encore vendus encore aujourd'hui. Elle a réussi parce qu'elle avait un mentor qui l'a appuyée, qui était Laszlo Mohony-Lagy, à passer à l'atelier métal. Mais elle raconte dans ses mémoires qu'elle a passé un an à poncer et à faire de la limaille et qu'on lui donnait que les petits travaux les plus ingrats. Voilà. Donc... Le Bauhaus était certes un endroit extraordinaire et plein de liberté, mais pas forcément pour tout le monde.
Oui. La chance qu'a Magda, c'est que son parrain donc, est Paul Klee et qu'elle est tout le temps dans son atelier et qu'elle est biberonnée aux couleurs et à la peinture.
Oui, elle naît au milieu des peintres, puisque son père est marchand d'art. Donc, et puis, ils ont une vie quand même relativement bohème, on va dire, puisqu'ils vont d'hôtel en hôtel. Son père est un flambeur. Donc, il joue sa vie, en fait, jusqu'à la fin. Et donc, elle va avoir une éducation très, très peu orthodoxe, plutôt au contact, en fait, des peintres que son père côtoie et puis surtout des couloirs des hôtels. Elle va glaner à droite à gauche de quoi faire sa formation jusqu'au moment où il faudra quand même revenir dans le cursus. Et elle a c'est sa manière de voir le monde. Elle a une sensibilité très particulière à la couleur. C'est son vrai talent, en fait.
Oui, et surtout les couleurs de peau. Enfin, au départ, quand elle est gamine, elle est fascinée par les couleurs de peau des gens qu'elle côtoie et elle cherche à rendre exactement la teinte.
C'est très difficile de rendre une couleur de peau.
C'est ce qui est le plus difficile.
C'est très difficile,
oui. Oui, ça peut tourner au verdâtre facilement.
Comme dans les tons subtils et rabattus. Enfin, c'est un mélange très particulier. Moi, là, pour le coup, j'ai emprunté un souvenir de ma propre jeunesse parce que c'était une de mes obsessions. Et je me souviens quand j'étais au collège, on me demandait toujours « Vas-y, Yannick, fais-nous la couleur de la peau » parce que c'était un truc que j'aimais beaucoup. Moi, la pintoche.
Oui, mais c'est très frappant quand on vous lit. C'est un passage très, très saillant dans le roman. Et je suis contente de voir que, en fait, c'est votre propre sensibilité.
Quelques bribes comme ça sont...
Oui. Alors, on ne peut pas rabattre, bien sûr, ce que vous écrivez sur votre propre subjectivité, parce qu'il y a beaucoup de personnages et que peut-être vous mettez un petit peu de vous-même dans tous les personnages.
Oui, en fait, ils sont tous moi. Aucun n'est moi, mais tous sont moi.
Oui. Voilà. Donc, bien sûr. Mais il y a des passages très saisissants comme celui-là, où vraiment on est dans la personnalité de cet enfant. Et en même temps, on rêve quoi, de son destin, de ce qu'elle va pouvoir faire avec ce talent qui est particulier. Et de la chance aussi qu'elle a de côtoyer Paul Klee à ce point.
Elle a un talent particulier, enfin une obsession particulière, c'est qu'elle fait correspondre à chaque personne qu'elle rencontre une couleur particulière ou un assemblage de couleurs particulières. Voilà. Et toute sa vie, elle va garder des carrés gouachés de couleurs.
Oui, c'est ça. Vous a fait ça aussi de jeter tous vos pots
Non.
Parce que c'est ce qui lui arrive hein, quand ils partent de l'hôtel. Elle avait fait des petits pots de couleurs correspondant à chaque pot de personnage, de personne. Et puis, on lui a tout mis à la poubelle parce que c'était encombrant, sans doute. Et donc, après, elle s'est mise au carré gouaché. C'était plus...
Jusqu'au moment où elle va... Alors, je sais pas si je veux... Après, du coup, on va dévoiler des passages du livre, mais donc, à un moment, elle va partir jusqu'en URSS et elle va amener avec elle ses carrés de couleurs. Et moi, ça me fait beaucoup rire. J'espère que ça fera rire le lecteur, mais elle va se retrouver dans un système hyper oppressif parce que le stalinisme a repris la main sur les artistes. Et elle va utiliser ses références de couleurs pour repeindre des bâtiments officiels. Et c'est une espèce de pied de nez au totalitarisme. Voilà, moi, ça m'a fait sourire.
Mais... Oui, ça fait, mais le lecteur aussi. Hein. Comme je disais au début, hein, il y a beaucoup d'humour. Il y a une revanche aussi, une revanche sur la bêtise. Quoi. Et notamment, évidemment, sur la bêtise nazie, l'art dégénéré, l'exposition d'art dégénéré qui a été, en réalité... un chef-d'œuvre. Enfin, même Théo n'aurait jamais imaginé pouvoir rassembler une telle dans sa galerie, une telle collection quoi, de chefs-d'œuvre.
Oh, oui, entre 35 et 37, les nazis ont ratissé avec l'aide de conservateurs un peu malveillants, dont Hildebrand Gurlitt, qui est un homme qui va revenir dans le livre, donc dont le fils va revenir dans le livre.
Oui, voilà.
Ils ont racketté, spolié les marchands, les peintres, les collectionneurs. Pour monter une énorme exposition qui a débuté en 37 à Munich, qui est la plus grande exposition d'art contemporain de l'époque qui avait jamais été faite, où ils étaient absolument tous là. Klee, Kandinsky, Picasso, tous les membres du Bauhaus, Kirchner, enfin il y avait les expressionnistes et les modernes, les abstraits, Dix, les véristes. Ils étaient absolument tous là, et soi-disant pour montrer au peuple la dégénérescence de l'art contemporain, en fait, l'exposition a eu un énorme succès.
Et il n'y avait personne à l'exposition
officielle. Mais en sous-main, en fait, c'était aussi une manière de récupérer du cash. Parce que de toutes ces œuvres, il y a une partie qui a été brûlée. Göring s'en est mis une petite partie pour sa collection personnelle, parce que c'était un grand collectionneur. Et une énorme partie a été revendue sur le marché suisse. Avant 45, quoi. Et ça, c'est assez peu documenté. On en parle assez peu, mais c'est un scandale international. Enfin, c'est et il y a prescription.
Oui, tout à fait. Il y avait un double discours pour cracher sur ses œuvres, mais en réalité, il les appréciait beaucoup et il se les gardait autant qu'il pouvait. Quoi.
C'était une valeur monétaire aussi.
Mais peut-être aussi une valeur artistique. Pourquoi pas ? Enfin, laissons-leur...
Oui, non, non, on leur laisse rien.
On leur laisse rien, d'accord. Donc, on a compris l'ampleur thématique du roman, l'ampleur historique aussi du roman, l'ampleur psychologique, on va dire, puisque toute cette galerie de personnages avec chacun ses doutes, ses mystères, ses problèmes, ses ambitions que l'on suit et que l'on voit quelquefois contrecarrées ou déçues. Peut-être quand même que on commence avec Josh et on finit avec Magda. Enfin, moi, c'est un petit peu le parcours que j'ai suivi. Après, chaque lecteur fait son parcours, bien entendu. Mais c'est peut-être un voyage aussi à travers des subjectivités, tantôt des hommes, tantôt des femmes. Et ça aussi, c'est une grande qualité dans votre œuvre, c'est de nous attacher de manière très subjective, très intériorisée à vos personnages. Alors, qui tantôt sont historiques, et ça aussi, c'est intéressant, ce que vous introduisez dans le roman, c'est un énorme fond documentaire. Alors, on a compris que vous mettez des années à oser parler de vos personnages, parce que certains sont historiques, Klee en l'occurrence, mais pas seulement, et le mathématicien donc dans La déesse des petites victoires. Et en même temps, vous y mêlez des personnages de fiction, ou bien dans les blancs pour lesquels vous n'arrivez pas à trouver ce qui historiquement s'est passé, ben, vous imaginez, comme tout bon romancier. Et donc tout ça donne aussi une épaisseur foisonnante à vos pages, et c'est ça aussi qui les rend passionnantes.
Moi, ce que je cherche avant tout, c'est quand même le plaisir, en fait. C'est le principe de plaisir. Moi, j'aime écrire comme j'aime lire.
Oui.
Et moi, j'aime apprendre. J'aime, effectivement, quand il y a un style particulièrement intéressant. Mais ce que j'aime avant tout, c'est qu'on me raconte une histoire. Et ça, je ne pense pas que ça soit pas universel. Enfin,
oui,
qu'on soit, qu'on ait 4 ans ou qu'on ait 88 ans, on aime qu'on nous raconte des histoires. Et je pense que c'est possible. Voilà. Je pars de ce principe qu'on peut raconter une belle histoire tout en émouvant et tout en faisant passer de la connaissance. Et c'est une seule et même chose, en fait. C'est pas le fond et la forme. C'est la forme et le fond, encore une fois, c'est comme un objet de design, sont intimement mêlés. Et il n'y a pas de dualité ou de dichotomie à faire entre les deux.
Oui, ce qui compte, c'est le sens, quoi. Le sens,
c'est
le voyage entre le fond et la forme.
Bah, c'est la quête du sens, toujours. Ouais.
Oui, oui, c'est ça. Et il y a aussi énormément de choses sur l'art, dans ce livre-là, sur la peinture. qui sont passionnantes, quoi. Enfin, et bien sûr, il y a vos études de design et vos sensibilités à l'art de votre jeunesse, aux couleurs, donc. Mais il y a aussi votre métier. Vous êtes graphiste. Et c'est aussi, je pense, un lien constant avec l'art, avec ce que peut apporter au monde et aux gens dans ce monde, l'art et ce qui pourra en rester. Ce qui pourra rester de l'art, mais ce qui pourra rester des gens aussi à travers l'art.
Oui, c'est le principe même du livre, en fait, c'est le lien. L'art est le lien à travers le temps entre toutes les générations, et c'est le lien entre nous tous. C'est une image que j'utilise souvent, mais c'est une œuvre d'art, c'est une fenêtre ouverte sur un autre ici, un autre ailleurs, un autre ici et maintenant et un autre ailleurs, mais de quelqu'un qui peut avoir existé il y a 400 ans.
Oui.
C'est incroyable. Et pourtant, ce lien est absolument éternel alors qu'il est une petite pièce du temps. Et je trouve ça toujours particulièrement émouvant. Et par exemple, il y a un chapitre que j'ai écrit en regardant un tableau de Van Eyck.
Voilà, oui.
Et pourtant, ça parle. Voilà. Non, non. Bah oui, il y en a, y a celui-là.
Oui,
parce
qu'il y a une allusion, là. Et comme je me suis intéressée tout récemment à ce tableau, j'ai tout de suite reconnu l'allusion.
Et il y a un tableau qui est assez célèbre, qui s'appelle La touffe d'herbe, parce qu'en général, à cette époque, il n'y avait que des tableaux à thème religieux. Et Van Eyck a commencé à faire autre chose. Oui. Donc, historiquement, c'est intéressant, mais bon, ce n'est pas le sujet.
Et pour la perspective aussi.
Mais j'ai utilisé ce tableau pour m'inspirer pour écrire une scène qui se passe en guerre de Corée en 1953. Il y a des ponts temporels pour tout. Et je pensais en écrivant aussi à ce texte, à Malik, à la ligne rouge, où il y a des magnifiques scènes dans les herbes. Et tout ça, pour moi, c'est une filiation.
C'est une manière
de voir le monde, tout simplement.
Enfin, et une manière qui est à chaque fois, pour chaque artiste, unique. Ça aussi, ça revient comme une obsession dans le roman. C'est que chaque tableau est unique parce que chaque peintre est unique et que sa vision du monde est unique. Et que si ce tableau n'existe pas, il nous manque une vision du monde qui est irremplaçable.
Mais même au-delà de ça, je pense que chaque individu a une vision unique du monde. Et que c'est un irréductible. On peut pas. Je ne verrai jamais le monde tel que vous le voyez.
Oui.
Et certains artistes peuvent donner avoir le monde tel que le voir.
Voilà. C'est d'autant plus intéressant quand ils le donnent à voir, effectivement.
Mais l'art, c'est aussi que ça soit de la peinture, de la musique. Alors, je peux pas qualifier ça d'art, ça serait un peu prétentieux, mais ou d'écrire une histoire, c'est donner à voir aussi le monde tel qu'on le voit.
La littérature est un art, il faut quand même.
Oui, mais c'est pour ça que je suis une artiste.
Mais peut-être que votre prochain roman ce sera sur le milieu littéraire.
Je ne sais pas, non.
Après les mathématiques et la peinture
Non, c'est pas parti par là.
On verra.
Un jour peut-être.
Oui, on espère. En tout cas, quand Magda a des doutes et dit « tout a déjà été peint », eh bien, ce que Clé lui répond, c'est que justement, sa vision du monde à elle, elle n'est pas semblable à n'importe quelle autre. Elle n'a pas encore été montrée, elle n'a pas encore été peinte, donc il faut la peindre.
C'est le principe même de tout fond, enfin, c'est tout principe artistique commence par ça.
C'est ça.
C'est une vision du monde.
Oui, tout à fait.
Personne ne peut avoir la même que vous.
Oui. C'est particulièrement réconfortant.
Oui, je crois.
Je crois.
Oui.
Alors, on ne va pas dévoiler plus avant l'histoire. Je pense qu'on a juste un petit peu parcouru les thèmes, la construction un petit peu du roman. Donc, merci infiniment, Yannick Granec. Vous apprendrez énormément de choses sur le Bauhaus dans ce deuxième roman, comme vous avez sans doute appris beaucoup de choses sur Gödel et tous ses proches de cette époque fantastique aussi dans le domaine scientifique, dans l'entre-deux-guerres entre les États-Unis et l'Allemagne et l'Europe. Donc, bonne lecture à tous. Merci beaucoup.
Merci.